Radio Kapi.
En direct de Kinshasa, il est très précisément 12h. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Élection ce mercredi à Kinshasa du nouveau président du conseil d'administration de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Convoqué par le conseil d'État, ce scrutin se tient sur fond de tensions entre les deux institutions. Lutte contre la deuxième vague du coronavirus au Nord Kivu. Le président de la société civile de Butembo plaide pour l'adaptation des mesures prises par le chef de l'État à Kinshasa à la situation épidémiologique de chaque région. Notre invité ce midi, c'est la chef de la MONUSCO. Madame Leila Zerougui annonce que la MONUSCO compte en son sein des expertises que le gouvernement congolais peut utiliser dans le cadre des réformes jugées prioritaires conformément au nouveau mandat confié à la mission par le Conseil de sécurité. Madame, Messieurs, bonjour au micro, Pascal Masirika, mise en onde d'Alain Goy. Sauf changement de dernière minute, c'est aujourd'hui que la Fédération des entreprises du Congo organise l'élection de son président du conseil d'administration. Selon le calendrier électoral publié par le greffier en chef du conseil d'État, un seul candidat en liste a été enregistré et retenu. C'est l'associé gérant de la société Gécotrans et vice-président de la Fédération des entreprises du Congo en charge du climat des affaires, Dieudonné Kasembo Nyembo. À quoi peut-on s'attendre ce mercredi? Les détails sur l'éventualité de cette élection avec vous, Jeff Ngoy.
S'il y a élection, il se passerait sans ceux qui sont appelés à élire, avertit la FEC. Ce serait une élection voulue et organisée par le Conseil d'État contre la volonté du patronat congolais. Celui-ci a déjà exprimé son désaccord dans sa dernière lettre adressée au greffier en chef du Conseil d'État. Pour la FEC, une telle élection violerait non seulement les textes qui la régissent, mais aussi la Constitution et les mesures des gestes barrières contre le coronavirus, interdisant tout rassemblement de plus de 20 personnes, alors que le corps électoral de la FEC est composé de plus de 100 membres. Si à la FEC on estime que l'élection a déjà eu lieu conformément à ses statuts et règlements intérieurs, au Conseil d'État par contre, on pense qu'elle a été irrégulière. Saisi par la plainte de Dieudonné Kasembo, candidat recalé lors de la première élection, le Conseil d'État avait pris une ordonnance annulant l'élection d'Albert Yuma comme PCA. Et en exécution de cette décision de référer liberté, le greffe a été chargé d'organiser la dite élection malgré le refus du patronat.
Merci Jeff Ngoy pour ces précisions. La République démocratique du Congo, par le biais de son président Félix Tshisekedi, va occuper la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022. C'est pour aider le pays à réussir son mandat à la tête de cette organisation continentale que bailleurs de fonds, partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi que la coordination du panel chargé d'accompagner la RDC à la présidence de l'Union africaine ont échangé hier mercredi ici à Kinshasa. La ministre des Affaires étrangères, le directeur de cabinet intérimaire du chef de l'État et la représentante spéciale de l'Union africaine en RDC ont rehaussé de leur présence cette importante rencontre. Qu'est-ce que la RDC attend réellement de la part des bailleurs de fonds et de ses différents partenaires? Suivez la réponse d'Adolphe Toumbalouaba, Alphonse Toumbalouaba plutôt, coordonnateur du panel devant accompagner la RDC tout au long de l'exercice de son mandat à la tête de l'Union africaine. Il est au micro d'Adolphe Ngoy.
Dans un premier temps, on a déjà eu une réunion avec le groupe Afrique des ambassadeurs africains accrédités en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons eu une réunion très ouverte aux partenaires bilatéraux et multilatéraux. Il y aura essentiellement deux contributions. Je dirais une contribution en appui à l'expertise technique et aussi une contribution financière. Mais je dirais aussi que déjà par leur présence, c'est un appui politique et ils disent qu'ils vont accompagner le Congo et l'Afrique. Et tous ils disent qu'ils sont conscients que le Congo peut apporter beaucoup en ce qui concerne le domaine de la paix, la sécurité, la zone de libre-échange continentale, la tolérance zéro dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Et là, nous pensons renforcer la coopération judiciaire.
On enchaîne avec le Nord Kivu où le président de la société civile de Butembo plaide pour l'adaptation des mesures prises dans les cadres de la lutte contre la deuxième vague du coronavirus. Telesphore Malonga s'inquiète aussi de l'instauration d'un couvre-feu pendant que, selon lui, des personnes s'entassent la journée et la nuit. Il demande au président Félix Tshisekedi Tshilombo d'adapter ses mesures selon la situation épidémiologique de chaque région. Ses propos ont été recueillis par Florida Kahambu.
Si à Kinshasa il y a 300 cas, alors qu'à Rouaoua il y a 0 cas, est-ce qu'on doit prendre les mêmes mesures pour ces différentes entités? C'est à ce niveau-là qu'on aurait souhaité, par exemple, que les mesures soient beaucoup plus adaptées aux différents contextes. Je prends le cas que nous avons vécu ici avec Ebola. Presque pendant 2 ans, nous étions intensément sous Ebola. La vie nationale continuait normalement dans d'autres entités. Donc il y avait moyen de renforcer les confinements. En tout cas, dans les villes où il y a plus de cas, ils essayaient de les alléger dans d'autres. On nous dit qu'il nous faut rester en couvre-feu. Vous qui vous promenez le soir, y a-t-il plus de monde dans la rue, la journée ou la nuit, pour qu'on nous laisse circuler la journée et la nuit on nous confine, alors qu'il y a moins de monde dans la rue, la nuit? Donc vous voyez qu'il y a des mesures qui peuvent justement poser des problèmes ou des réserves, et on espère que le chef de l'État va y réfléchir rapidement pour essayer de les adapter selon les coins et en fonction des circonstances, des temps et des lieux. Soulever la réserve, c'est cette homogénéisation des mesures standards pour l'ensemble du pays.
Non loin de là, à Beni, toujours au Nord Kivu, les églises sont appelées à faire respecter les mesures barrières par leurs fidèles afin de contrer la propagation du coronavirus à l'approche des fêtes de Noël et de Nouvel An. Appel lancé par le président du consortium des confessions religieuses de la ville et du territoire, Bishop Baraka, a été joint par Guylaine Kassassia.
En tant que confesseurs religieuses, nous avons été satisfaits de la manière dont cette fois-ci les églises n'ont pas été fermées, mais des restrictions en rapport avec les veillées de prière. En cette période de Noël et de Nouvel An, il est vrai que beaucoup d'églises se préparaient déjà à des veillées de prière, mais comme ça a été prohibé, qu'on organise seulement les cultes de la journée. Et c'est pour ça que nous demandons à tous les responsables des églises locales de respecter scrupuleusement ce qui a été décidé par la haute autorité de la République. Aux responsables des églises, lorsqu'il faut célébrer la Sainte Cène, d'éviter d'utiliser les désinfectants, mais d'utiliser plutôt de l'eau et le savon, parce qu'on risque de faire avaler aussi ces désinfectants lors de la Sainte Cène. Lorsque nous entrons à l'église, que nous soyons munis de cache-nez.
Béni encore, l'ONG Merci Corps remet officiellement à la communauté et aux autorités locales des ouvrages d'accès à l'eau potable et des infrastructures routières. C'est dans le cadre de son projet dénommé Levier d'engagement communautaire pour réduire l'impact et la propagation de la maladie à virus Ebola, financé par l'USAID dans l'est de la RDC. C'est un reportage de Marc Marofimo.
Lancé depuis le mois d'octobre de l'année dernière, l'ONG Merci Corps a réhabilité des grands réservoirs de 30 mètres cubes chacun, munis de filtres, une addition avec 21 bornes fontaines, dont 16 nouvelles bornes fontaines et 5 réhabilités, 4 points de forage réhabilités avec installation de 4 pompes vernier, 42 portes de latrines, tous dans la zone de santé de Beni, en territoire de Beni. Pour chaque lieu où le projet a été exécuté, le comité de gestion de l'hygiène et maintenance a été renforcé en capacité sur la gestion, la maintenance des ouvrages et la réparation des ouvrages en cas de panne ou autres complications d'utilisation. En outre, 129 comités d'appui ont été appuyés à travers 9 aires de santé. Appui également aux activités génératrices de revenus et la réponse à apporter à leurs besoins globaux, dont la facilitation de l'accès routier. Pour ces 15,7 km ont été réhabilités en Gongolio, Sayo et Mukulia. Pour le directeur du dit programme, ces ouvrages hydrauliques réalisés constituent une réponse aux besoins en eau, hygiène et assainissement exprimés par les habitants à travers leurs cellules d'animation communautaire. Signalons que ces ouvrages ont été remis au maire de la ville de Beni, les chefs de base ainsi que la communauté locale, premier bénéficiaire de tous ces projets. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Au Maniema, pendant ces temps, dans les territoires de Kasongo, on signale la pénurie d'eau potable de la régie des eaux. L'administrateur du territoire qui alerte les autorités fait savoir que c'est depuis plus de mois que la population de ces territoires est privée d'eau de la régie des eaux. Pour en parler, retrouvons à Kindu Florence Kizalunga.
Selon Kitenge Kingombe Benoît, cette situation met en danger la population des Kasongo, surtout en cette période de la deuxième vague de la COVID-19.
Je voudrais tout simplement signaler que ça fait de cela à peu près un mois et demi, que la population des Kasongo vit une situation vraiment difficile quant à ce qui concerne les desserts en eau potable. Et cela rend de plus en plus la situation sociale difficile dans l'ensemble de la population. Cette situation nous met de plus en plus en difficulté, surtout que elle vient encore aggraver nos malheurs en cette période de la deuxième vague de la COVID-19.
Contacté, le directeur provincial de la régie des eaux reconnaît la situation et dit avoir dépêché une équipe sur terrain. Pascal Bokanga Bongondo.
Oui, madame, je suis au courant de ce qui se passe à Kasongo. Kasongo est en arrêt depuis un mois. Je suis au courant de tout ça, madame. Par rapport à ça, nous avons dépêché une équipe qui est allée à Kasongo pour l'extraire afin de nous permettre d'amorcer sa réparation, la réparation de cette pompe-là. J'invite la population de Kasongo à rester calme. Nous évertions à trouver solution aux problèmes auxquels ils sont confrontés actuellement. Que nos abonnés prennent patience.
Signalons que le territoire des Kasongo est le plus peuplé de la province du Maniema. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, au Kasaï oriental, les vulnérables, les déplacés internes et les réfugiés doivent être à l'abri de l'exploitation et d'abus sexuels quand ils reçoivent une aide humanitaire. C'est le but de l'atelier organisé hier mardi par l'Union des femmes pour la dignité humaine. Ce projet implémenté au Kasaï, en Ituri et au Tanganyika rentre dans le cadre du renforcement de l'approche interorganisationnelle. Lors des travaux d'un jour, plus de 30 acteurs humanitaires nationaux et internationaux ont examiné les mécanismes de redevabilité, de prévention, de protection, d'exploitation et d'abus sexuels commis par le personnel humanitaire lors de l'assistance aux nécessiteux. Un numéro vert pour les appels a été disponibilisé par le Fonds des Nations Unies pour la population qui a financé ces travaux. On écoute la présidente du conseil d'administration de cette structure, Yvonne Ngoy, confié à Esther Ndalafina.
Nous avons renforcé les capacités des acteurs humanitaires qui sont éligibles pour ceux qui sont sous-traités au fonds humanitaire. C'est pour que dans leur planification, projet, code de conduite, qu'ils puissent intégrer l'approche de redevabilité et de lutte contre l'exploitation et abus sexuels commis par les acteurs humanitaires. Comme vous le savez, l'aide humanitaire, c'est un droit pour les personnes affectées et un devoir pour nous les humanitaires. Cette aide humanitaire ne doit pas être échangée contre quoi que ça soit. Dans la philosophie du secrétaire général de l'ONU, nous disons abus et exploitation sexuelle, tolérance zéro. Ces organisations ont pris un engagement. Ils vont intégrer dans leur règlement intérieur et les codes de bonne conduite l'approche de lutte contre l'exploitation et abus sexuels. UNFPA a mis à la disposition de la communauté de bénéficiaires des appuis un numéro, c'est le 49-55-55. C'est un numéro gratuit. Toute personne qui voit, entend, suspecte un cas d'exploitation ou d'abus sexuel commis par un acteur humanitaire, il appelle à ce numéro, donne l'information.
Actualité internationale.
La tension est montée d'un cran hier mardi en République centrafricaine. Les groupes armés coalisés ont mené une série d'attaques coordonnées dans les différentes zones du pays. Dans ce contexte, de plus en plus d'acteurs et d'observateurs politiques du processus électoral s'interrogent sur la possibilité de tenir des élections générales crédibles dimanche prochain. Les Européens harmonisent en ordre dispersé leurs mesures restrictives à l'encontre du Royaume-Uni après les l'émergence d'une nouvelle souche considérée comme plus transmissible du coronavirus. Après deux jours de tractations à Bruxelles, les Européens ont décidé de commun accord de relâcher la pression et de rouvrir partiellement leurs frontières. En France, trois gendarmes ont été tués et un quatrième grièvement blessé par un forcené. Les gendarmes avaient été appelés hier soir pour porter secours à une femme qui avait trouvé refuge sous les toits d'une maison. Le suspect, un homme de 48 ans, a été retrouvé mort.
L'invité.
La MONUSCO compte en son sein des expertises que le gouvernement de la RDC peut utiliser dans le cadre des différentes réformes qu'il juge prioritaires conformément au nouveau mandat confié à la mission onusienne par le Conseil de sécurité. Annonce faite à Radio Okapi par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. Dans cet entretien, Laila Zerougui parle également de la protection des civils et appelle particulièrement les populations des zones troubles comme Beni de ne pas se laisser entraîner dans des actions de démobilisation contre ceux qui sont venus de loin pour les aider à retrouver la paix, parfois au sacrifice du sang. Elle répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Madame Laila Zerougui, bonjour.
Bonjour.
Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de proroger le mandat de la mission onusienne en RDC jusqu'au 20 décembre 2021. Oui, quel est le sens de cette nouvelle résolution pour une mission comme la MONUSCO, madame?
Je pense que le plus important, c'est que le Conseil de sécurité nous fait confiance, renouvelle le mandat avec les grandes lignes qui existaient déjà, c'est-à-dire 1. La protection des civils, 2. Le renforcement des capacités de l'État et la stabilisation des institutions. Donc je pense que c'est quelque chose de positif et nous allons continuer à travailler pour mettre en œuvre ce que le Conseil de sécurité a considéré comme prioritaire et sur lequel nous avons déjà travaillé, nous continuons à le faire.
Alors, parmi ces priorités, il y a également, madame, l'appui aux principales réformes en matière de gouvernance. Qu'est-ce que la RDC peut attendre concrètement de la MONUSCO concernant notamment les différentes réformes lorsqu'on sait que le Conseil de sécurité s'est félicité des dernières initiatives du président Tshisekedi?
Vous savez, une mission de maintien de la paix, c'est quand même des expertises qui sont sélectionnées et payées par les Nations Unies, qui se trouvent dans le pays. Des expertises en matière de SSH, c'est-à-dire les réformes pour militaires et le renforcement des capacités des FARDC, de la police. C'est aussi des expertises en matière de droits de l'homme, en matière de protection de l'enfance. Donc c'est des experts mis à la disposition des autorités et ils peuvent les utiliser gratuitement. Demain, si la mission n'est pas là, pour ramener un expert, il faut d'abord pouvoir l'identifier, il faut qu'il soit disponible et il faut le payer. Donc c'est ça l'avantage d'avoir une mission de maintien de la paix avec ces expertises-là à la disposition des autorités. Le Conseil de sécurité a signalé le renforcement des fonctions régaliennes de l'État d'une façon générale, c'est-à-dire renforcer la justice, la police, l'administration pénitentiaire, l'administration locale, et renforcer aussi les capacités et les moyens de réponse des FARDC. Donc c'est toutes ces fonctions-là, et bien évidemment, si le gouvernement identifie quelque chose de prioritaire et a besoin de notre soutien, même en dehors de ces 4 chapitres qui ont été identifiés, et donc s'il a besoin de l'expertise de la MONUSCO, nous sommes là. S'il n'en a pas besoin, il a les capacités, il peut le faire seul. On n'est pas là pour s'imposer. Nous, on est là pour appuyer.
Alors, madame, revenons un peu sur la protection des civils. Quel est ce plus que va apporter la mission tout au long de son mandat en 2021?
Ok. Pour ce qui est de la protection des civils, nous sommes déjà en train d'avancer pour changer ce narratif qui fait qu'on pense qu'une mission de maintien de la paix, elle vient, elle va faire la guerre, elle va finir l'ennemi et elle rentre chez elle. Quand on a un conflit interne, ça veut dire qu'on a des problèmes qui ont généré le conflit. Et ça veut dire qu'il faut travailler sur les causes profondes. Il faut cibler celui qui commet des exactions sur les populations, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut des actions militaires. Mais le plus important, c'est aussi d'identifier c'est quoi qui nourrit ces conflits. Comment assécher le marécage qui continue à nourrir ces bêtes. Et donc, on travaille là aussi sur les causes profondes. Comment on peut réconcilier des communautés, renforcer la justice. Donc c'est tout ce travail qui est protection des civils.
Alors madame, vous avez un message particulier pour les populations de Beni par exemple à la suite de ce nouveau mandat de la MONUSCO?
Alors je dis à la population de Beni, de Boutembe, de Bounia, de toutes les zones du Nord Kivu, du Sud Kivu, toutes ces zones qui subissent encore les affres de ces attaques de groupes armés et de violences et qui dans ces moments de fête de fin d'année et de Noël. D'abord, je leur dis bonne fête. J'espère que l'année 2021 sera meilleure que l'année 2020. J'espère que tout ce qu'on a subi au cours de cette année liée à la guerre, liée à la maladie, j'espère que l'année 2021 sera plus clémente pour nous tous. Maintenant, pour la population de Beni Boutembou particulièrement, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se font tuer. Il y a des groupes armés qui vivent sur la population et donc certains pensent que la MONUSCO a les capacités de finir cette menace et elle ne veut pas le faire. Je dis que la MONUSCO fait ce qu'elle peut et on travaille ensemble. On travaille avec le gouvernement, avec les autorités. Et notre objectif, c'est d'appuyer toutes les initiatives pour que la protection soit réelle. Manifester contre la MONUSCO, l'accuser de soutenir des groupes armés, n'est pas la solution. La solution, c'est d'encourager ceux qui sont déployés dans des conditions difficiles, ceux qui ont perdu déjà leurs camarades. Le plus gros de nos pertes depuis qu'on est là, ça s'est passé à Beni Boutembou. Nous avons des gens qui sont morts, qui ont laissé famille, enfants chez eux et qui sont morts dans cette zone. C'est des gens qui viennent de très loin, qui ont laissé des familles et qui sont morts sur le sol congolais. Donc, si on veut vraiment encourager ceux qui restent, ceux qui travaillent dans ces conditions avec la peur et tout ça, c'est de ne pas les démobiliser à travers des accusations qui n'ont aucun sens, à travers des pressions qui ne sont pas les meilleures. Je comprends que les gens soient frustrés. Je comprends la souffrance de ceux qui sont menacés, ceux qui ont quitté leur zone, ceux qui ont vu leur village brûler. On fait ce qu'on peut. Donc, et parfois, on ne peut pas faire plus, malheureusement pour nous. Je comprends cette frustration, mais j'insiste, ne démoralisez pas les gens, ne racontez pas des choses qui ne sont pas vraies et essayez plutôt de mettre une pression positive. Les gens vont faire plus et vont vous aider. Bonne fête de la natalité, joyeux Noël et bonne année 2021.
Madame la représentante spéciale, merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, Madame Leila Zerougui, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à RDC, interrogée par Honoré Missenga Kalala. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Micheline Chouala et l'équipe Elamondo qui m'ont accompagné. Il est 12h21 à Kinshasa. Place maintenant au sport. Le rendez-vous de Dieudonné Kabeangalula.